Good evening, the Secretary General will.
Bonsoir, le secrétaire général va vous faire un point de situation suite à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, après quoi il répondra à quelques questions. Bonjour, nous venons de conclure une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Les alliés ont abordé la question des troupes que la Russie masse sans provocation et sans justification aux frontières de l'Ukraine et alentour, ainsi que ses implications pour la sécurité de l'Europe. Nous regrettons que la Russie n'ait pris aucune mesure de désescalade, malgré les appels répétés de la communauté internationale depuis de nombreuses semaines. La Russie poursuit sa montée en puissance militaire, acheminant des dizaines de milliers de soldats sur place, ainsi que des moyens lourds. La Russie manie également un discours menaçant et elle a pris l'habitude de recourir à la force contre ses voisins. Le risque de conflit est réel. Les agissements agressifs de la Russie sapent gravement l'ordre de sécurité en Europe. L'OTAN reste attachée à son approche duale à l'égard de la Russie, dissuasion et défense fortes, associée à un dialogue substantiel. La disponibilité de la Russie à s'asseoir à la table du dialogue constitue un signal positif, parce que le dialogue est d'autant plus important que les tensions sont élevées. Mercredi, les alliés rencontreront la Russie dans le cadre du Conseil OTAN-Russie. Cette réunion portera sur la situation en Ukraine et alentour, ainsi que sur ses implications pour la sécurité de l'Europe. Je salue également les entretiens que les États-Unis et la Russie tiendront lundi à Genève, ainsi que la réunion qui aura lieu jeudi à l'OSCE. Les ministres de l'OTAN se sont consultés aujourd'hui dans la perspective de ces réunions. La séquence d'entretien de la semaine prochaine sera pour la Russie l'occasion de démontrer qu'elle prend le dialogue et la diplomatie au sérieux. Nous sommes, comme toujours, disposés à entendre les préoccupations de la Russie. Et l'OTAN ne ménagera pas ses efforts pour trouver une voie politique. Mais pour que le dialogue soit signifiant, il doit aussi porter sur les préoccupations de longue date de l'OTAN à l'égard des agissements de la Russie. Il doit s'appuyer sur ce dialogue, sur les principes qui sont au cœur de la sécurité européenne et il doit se tenir en consultation avec l'Ukraine. Nous consultons également étroitement nos partenaires clés, dont la Géorgie, le Moldova, la Finlande et la Suède, ainsi que l'Union européenne. L'OTAN engagera le dialogue avec la Russie de bonne foi et sur le fond. Mais nous devons aussi nous préparer à l'éventualité d'un échec de la diplomatie. C'est pourquoi aujourd'hui, les ministres ont souligné que toute nouvelle agression russe contre l'Ukraine aurait pour la Russie des conséquences et un prix élevé. Les alliés restent aux côtés de l'Ukraine. Nous soutenons pleinement sa souveraineté et son intégrité territoriale et nous lui apportons notre soutien politique et pratique. Je présiderai lundi une réunion de la commission OTAN-Ukraine. Nous y recevrons le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, afin de discuter avec lui de la situation et de son évolution. Tous les pays, quelle que soit leur taille ou leurs voisins, possèdent le droit fondamental de choisir leur destinée et leurs alliances. C'est un principe fondamental de la sécurité européenne depuis des décennies. Et la Russie s'est engagée à le respecter. Enfin, les alliés ont indiqué clairement que l'OTAN prendra toutes les mesures qui s'imposent pour protéger ses nations et les défendre, y compris en renforçant si nécessaire et autant que nécessaire notre défense collective. La réunion d'aujourd'hui a une nouvelle fois démontré l'unité et la cohésion de l'Alliance. Nous sommes une enceinte indispensable pour réunir l'Europe et l'Amérique du Nord, pour nous consulter sur notre sécurité, pour protéger nos populations et pour défendre nos valeurs. Merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Il y aura des questions dans la salle et en ligne. Commençons dans la salle avec l'agence France-Presse.
Hello, Secretary General. Thank you
Bonjour, Monsieur le Secrétaire Général, Max Nelly, AFP. Plusieurs points sur le Conseil OTAN Russie. Vous avez dit à de nombreuses reprises que la politique de la porte ouverte était non négociable et que qu'il semble que toute une série d'éléments, des propositions de la Russie, comme par exemple un retrait des forces de l'OTAN des pays qui ont rejoint l'alliance depuis 1997, sont inacceptables. Est-ce que vous pouvez nous répéter, nous garantir que ces propositions sont inacceptables et qu'il n'en sera pas question dans vos discussions avec la Russie? Et au-delà de cela, est-ce que vous voyez un espace de négociation sur base du document que la Russie a publié? Et troisièmement, quelles sont les garanties que les États-Unis ont données aux alliés qu'ils ne concluront pas un accord séparé avec la Russie sans impliquer les Européens?
Il y avait déjà un message fort et unifié de la part de tous les alliés aujourd'hui que nous devons nous engager dans un dialogue de bonne foi et que nous devons faire tout ce que nous pouvons, faire tous les efforts nécessaires pour identifier une voie politique et diplomatique. Mais en même temps, les alliés aussi ont envoyé un message très clair qu'il n'y aura aucun compromis quant à nos principes clés, y compris le droit de chaque État de définir sa propre voie, y compris les arrangements de sécurité auxquels cet État souhaite participer. Ce sont des principes qui sont inscrits dans des documents auxquels la Russie elle-même a souscrit, y compris l'acte final d'Helsinki. Et c'est aussi dans l'acte fondateur OTAN Russie. Et donc, l'OTAN ne peut pas du tout céder pour ce qui est du principe que chaque État a le droit de déterminer sa propre voie. Et cela a été clairement exprimé par les alliés aujourd'hui. Les alliés de l'OTAN soutiennent la maîtrise des armements. Et nous nous tenons prêts à avoir des discussions avec la Russie sur la maîtrise des armements conventionnels et nucléaires, mais cela doit être réciproque, équilibré et vérifiable. Et ce n'est pas la même chose qu'imposer des restrictions quant à la capacité de l'OTAN de se protéger, de protéger tous les alliés. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où il y aurait des États membres de seconde zone, où l'Alliance n'est pas en mesure de protéger ses pays comme tous les autres alliés. Et donc, une maîtrise des armements équilibrée, vérifiable, des exigences imposées à l'OTAN, non. Il y a une distinction à faire ici. Les États-Unis ont clairement dit qu'il n'y aura aucune décision sur la sécurité européenne, aucune discussion sur la sécurité en Europe sans les Européens à la table des négociations. Et c'est pour cette raison-là que nous saluons le fait que les États-Unis consultent aussi étroitement les alliés de l'OTAN, y compris pour ce qui est des discussions stratégiques bilatérales menées avec la Russie. Nous saluons ces négociations parce qu'ils abordent la question de la maîtrise des armements. Il est important que les alliés européens ainsi que le Canada soient étroitement impliqués et consultés dans les échanges entre les États-Unis et la Russie sur ces questions-là. Les alliés européens sont à la table des négociations au Conseil OTAN Russie. Ils étaient présents aujourd'hui aussi. Il est important de ne pas oublier que l'OTAN est composée de 30 alliés, deux qui sont dans l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, et 28 alliés européens. Et donc, lorsque l'OTAN participe dans un dialogue avec la Russie, lorsque nous avons des discussions sur la sécurité des alliés européens, lorsque nous parlons de la sécurité européenne future, eh bien, les alliés européens sont assis autour de la table parce que les alliés européens sont membres de l'OTAN. C'est ce qui rend l'OTAN unique, une plateforme indispensable, parce que l'OTAN rassemble l'Amérique du Nord et l'Europe pour aborder des questions de sécurité communes. Et donc, nous ne pouvons pas parler de la sécurité européenne sans les alliés européens. C'est pour cette raison-là que l'OTAN est si importante. Et nous parlons de cette question-là en tant qu'OTAN, comme ça a été le cas aujourd'hui, ou au sein du Conseil OTAN-Russie avec la Russie. Permettez-moi d'ajouter une dernière chose. Pour l'OTAN, il est aussi important d'avoir des consultations étroites avec ses partenaires aussi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu des échanges avec le Premier ministre suédois et le président finlandais. Et après, la réunion du Conseil OTAN Russie mercredi. Je vais assister à la réunion des ministres des Affaires la réunion des ministres des Affaires étrangères de défense européenne à Brest. Et bien sûr, j'ai des échanges réguliers avec les hauts responsables.
Le Wall Street Journal. Merci Ivana. James Watson, Wall Street Journal. Quelques questions à propos des forces russes à la frontière de l'Ukraine. Je me demandais si la composition et le nombre de ces forces ont évolué ces dernières semaines. Et ensuite, j'aurais voulu savoir si les ministres ont discuté aujourd'hui d'éventuels plans de renforcement de l'OTAN à son flanc oriental si la Russie envahit de nouveau l'Ukraine ou si elle décide de maintenir les forces qui sont stationnées à la frontière ukrainienne pendant à long terme.
Le renforcement militaire russe ne s'est pas encore arrêté. Cela se poursuit. C'est progressif avec de plus en plus de forces, de plus en plus de capacités. Nous voyons de l'artillerie, des unités blindées, des troupes prêtes au combat, des moyens de guerre électroniques et énormément de capacités militaires différentes qu'ils sont en train de positionner de plus en plus autour de l'Ukraine. Le défi, c'est que lorsqu'on voit ce renforcement militaire graduel avec un discours menaçant, un discours disant que si on ne fait pas exactement ce qu'exige la Russie et si on n'accepte pas les exigences russes qui, nous le savons, ne sont pas acceptables, car ces exigences sont en violation des principes clés de sécurité, et nous savons aussi que la Russie a fait appel à la force face à ses voisins, la Géorgie et l'Ukraine auparavant. Donc nous avons ces capacités, ce discours et ce qu'elle a fait dans le passé, et cela envoie donc un message clair qu'il y a clairement un risque qu'il puisse y avoir un nouveau conflit armé en Europe. Et c'est pour cette raison-là qu'il est essentiel d'avoir un dialogue avec la Russie. Et c'est pour cette raison-là que je salue le fait que la Russie se dit prête maintenant à participer au Conseil OTAN Russie. C'est un signal positif et nous allons nous aussi y participer de bonne foi. Nous allons écouter les préoccupations de la Russie. Nous allons aborder différentes questions. Il y a la possibilité, par exemple, d'avoir des discussions non seulement sur la maîtrise des armements, mais la transparence sur les activités militaires, les mécanismes pour réduire les risques d'incidents et d'accidents, et les lignes de communication civile et militaire, ainsi que d'autres questions. Et il y a eu beaucoup de soutien de la part des ministres aujourd'hui que nous devons avoir un dialogue avec la Russie sur ces questions particulières. Après 2014, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, lorsqu'ils ont fait appel à la force militaire contre l'Ukraine, en occupant illégalement la Crimée, mais en poursuivant des activités déstabilisatrices dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, en soutenant les séparatistes, nous avons renforcé notre défense collective pour la première fois depuis plusieurs générations avec une présence accrue sur le flanc est de l'Alliance, avec des groupements tactiques dans les États baltes et en Pologne. Nous avons la force de réaction de l'OTAN aussi. Et on peut voir aussi des missions de police du ciel, davantage de présence dans la région de la mer Noire. Et nous sommes constamment en train d'évaluer si nous devons ajuster notre posture et notre présence militaire sur le flanc est de l'Alliance. Et nous l'allons faire à la lumière de ce qui se passera en Ukraine.
Passons à l'Agence nationale de la presse de l'Ukraine. À propos du discours de la Russie, certains officiels russes menacent de détruire l'Ukraine en quelques minutes. Cela paraît donc une menace de bombardement de grandes villes et d'infrastructures critiques à l'aide de missiles. C'est la forme que cela pourrait prendre. Je me demandais si les ministres de l'OTAN ou si les pays membres de l'OTAN envisagent d'aider l'Ukraine à se doter d'une défense aérienne antimissile ou en tout cas d'éléments de défense antimissile. Y aurait-il sur un autre point des conditions qui permettraient à l'OTAN, en cas d'escalade, d'établir au-dessus de l'Ukraine une zone de non-survol, une zone d'interdiction de survol.
L'Ukraine est un pays souverain et indépendant, et bien sûr, l'Ukraine a le droit de se défendre. C'est un droit qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Et lorsque l'Ukraine est menacée, je pense que tout le monde comprend que l'Ukraine agit et renforce ses efforts pour être en mesure de se défendre. Et les alliés de l'OTAN apportent un soutien à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse se défendre. Et c'est pour cette raison-là que nous ne fournissons pas seulement un soutien politique, un soutien pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi un soutien pratique. Par exemple, nous contribuons à la modernisation des forces armées ukrainiennes. Les alliés de l'OTAN fournissent des formations, du développement de capacités, et certains alliés fournissent différents types de matériel. Et donc, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais l'Ukraine est un partenaire important et proche qui est menacé par la Russie. Et la Russie occupe une partie du territoire ukrainien et continue de déstabiliser l'est de l'Ukraine ainsi que le Donbass. Et par conséquent, l'un des messages qui est ressorti de la réunion d'aujourd'hui, c'est que nous devons continuer de soutenir l'Ukraine de différentes manières. Et les alliés apportent déjà un soutien ainsi que l'OTAN en tant qu'alliance. L'idée même que l'Ukraine est une menace pour la Russie n'a aucun sens. L'Ukraine n'est pas une menace pour la Russie. En fait, c'est l'idée d'avoir une Ukraine démocratique et stable qui représente un défi pour la Russie. Et par conséquent, l'OTAN va continuer de soutenir son partenaire, un pays souverain, l'Ukraine, tout en reconnaissant que l'Ukraine est un partenaire et pas un allié de l'OTAN.
CEDEF. Bonjour, Florian Neuheim de la ZDF. Monsieur le secrétaire général, je voulais savoir si la crise du Kazakhstan a été évoquée aujourd'hui lors de la réunion. Quelle est la réaction de l'OTAN face à la situation au Kazakhstan? Et est-ce que, selon vous, cela peut avoir une influence sur les plans de la Russie à la guerre de l'Ukraine?
Les alliés de l'OTAN et l'OTAN suivent la situation au Kazakhstan de très près. Nous sommes préoccupés. Nous regrettons les pertes de vie. Et il est bien sûr important qu'il n'y ait plus de violence et qu'on respecte les droits humains, y compris le droit de manifestation pacifique et la liberté d'expression. Et de nombreux alliés l'ont exprimé, et je l'ai aussi exprimé en tant que secrétaire général de l'OTAN, que nous suivons la situation de près et que nous sommes inquiets de la situation et qu'il est important de mettre fin à la violence et de respecter les droits humains au Kazakhstan.
Imedi. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, vous venez d'indiquer qu'il est très important pour l'OTAN de dialoguer avec les pays partenaires. C'est très important pour la Géorgie et l'Ukraine. Comment envisagez-vous de renforcer votre appui politique et diplomatique et pratique à ces deux pays? Comment pensez-vous convaincre la Russie qu'elle n'a pas de droit de veto, qu'elle n'a pas le droit de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, ce qui constituerait un désaveu des décisions du sommet de Bucarest? Et est-ce que ce sujet, l'élargissement, l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN font partie des points à l'ordre du jour de la réunion de la semaine prochaine?
Il est important de comprendre que l'élargissement de l'OTAN a été important pour la stabilité, la démocratie, la paix en Europe. L'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne a contribué à renforcer la démocratie et la liberté en Europe. Il est important de le reconnaître, et ce n'est pas que l'OTAN ait exigé que ces pays rejoignent l'Alliance. Ce sont des pays indépendants qui ont décidé d'eux-mêmes, grâce à des processus démocratiques, de rejoindre l'OTAN. Et suite à un processus, nous avons accepté de nouveaux membres au sein de notre alliance. Et en ce faisant, nous protégeons la démocratie et la liberté tout à travers l'Europe. C'est une question de respecter des décisions libres et démocratiques prises par des États individuels en Europe. Et nous nous avons démontré, l'OTAN a démontré au cours des dernières années que la porte de l'OTAN reste ouverte en accueillant la Macédoine du Nord et le Monténégro comme nouveaux membres de l'Alliance. Et nous continuons de respecter nos décisions du sommet de Bucarest pour ce qui est de l'Ukraine et de la Géorgie. Nous soutenons et nous aidons ces deux pays pour qu'ils puissent davantage s'intégrer dans la zone euro-atlantique avec des réformes, avec un soutien pratique et politique. Et je suis convaincue qu'il est important d'envoyer le message que les réformes sont essentielles parce que cela permet au pays d'atteindre les normes OTAN, mais les réformes rendent aussi les sociétés en Ukraine et en Géorgie plus fortes. Des sociétés plus résilientes, qui fonctionnent bien, sont moins vulnérables face à l'ingérence russe. Et donc nous allons continuer d'apporter notre soutien et nous allons continuer de travailler avec la Géorgie et l'Ukraine.
TV2, Norvège. Bonjour, Monsieur le Secrétaire général. Comment vous préparez-vous à un éventuel échec de la voie diplomatique? Vous avez indiqué que vous n'étiez pas certain que la diplomatie fonctionne. Est-ce que vous envisagez de déplacer des capacités?
L'OTAN a une approche double face à la Russie. Nous devons maintenant nous engager dans un dialogue avec la Russie. C'est ce que nous allons faire de bonne foi mercredi. Nous saluons aussi le fait que les États-Unis aient des négociations bilatérales avec la Russie. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons. Nous allons faire tout notre possible pour nous assurer qu'il y ait une marche à suivre politique pour éviter qu'on utilise des moyens militaires contre l'Ukraine, pour que la Russie ne le fasse pas. Mais en même temps et en parallèle, nous avons besoin de nous préparer face à cette perspective que les négociations pourraient échouer et que la voie diplomatique échoue. Et c'est pour cette raison-là même que nous envoyons un message très clair à la Russie que si elle décide à nouveau d'utiliser des moyens militaires contre un voisin, il y aura des conséquences sévères, des sanctions économiques, des sanctions internationales, politiques. Et cela a été exprimé par les alliés de l'OTAN, par les États-Unis, par l'Union européenne aussi et par d'autres encore. Deuxièmement, nous soutenons l'Ukraine. Et en soutenant l'Ukraine et en soutenant leurs forces armées, le développement de leurs capacités militaires, nous sommes en train d'augmenter le seuil d'utilisation de la force par la Russie contre l'Ukraine. Et troisièmement, nous sommes constamment en train d'évaluer le besoin de renforcer notre présence sur le flanc est de l'Alliance. Au cours des dernières années, nous avons mis en œuvre une augmentation considérable de notre présence sur terre, en mer et dans l'air, avec la mission de police du ciel, en mer Baltique et en mer Noire. Et nous avons aussi les groupements tactiques dans les États baltes et en Pologne, quelque chose que nous n'avions pas avant 2014, les groupements tactiques que nous avons déployés dans ces pays. Et nous sommes rendus en Lettonie récemment. Celle menée par le Canada a été faite en réaction à l'agression russe ciblant l'Ukraine de 2014. Et donc, nous allons faire ce qu'il faut pour nous assurer qu'il n'y ait aucune marge d'erreur de calcul. Et nous allons aussi augmenter notre réactivité pour défendre tous les alliés.
Nous allons prendre une ou deux questions en ligne. Greg Palkat, Fox News. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Deux questions, si vous le permettez. Quel est, selon vous, le scénario du pire? Dans quelles circonstances les forces militaires de l'OTAN pourraient-elles être utilisées contre la Russie si elle décide de bouger militairement? Et deuxièmement, est-ce que le Conseil OTAN Russie de la semaine prochaine ne risque pas d'encourager la Russie à croire que qu'il suffit de déplacer des troupes à la frontière d'un pays quelconque pour obtenir un siège à la table.
Tout d'abord, pour répondre à la dernière partie de votre question, l'OTAN demande à la Russie de participer au Conseil OTAN-Russie depuis l'été 2019. C'est la dernière fois que nous nous sommes réunis avec la Russie, en été 2019, et nous avons invité la Russie à participer au Conseil OTAN-Russie pour parler non seulement de l'Ukraine, mais aussi pour parler d'autres questions depuis plusieurs années. Et jusque-là, la Russie n'a jamais répondu favorablement à notre invitation. Et maintenant, la Russie a répondu. Et la Russie a dit qu'elle était prête à participer au NRC, et c'est quelque chose que nous saluons. Et il n'y a aucune contradiction entre une dissuasion, une défense forte et le dialogue de l'autre côté. Je pense que tant que nous sommes unis en tant qu'OTAN, tant que nous sommes forts, nous pouvons aussi nous engager dans un dialogue avec la Russie. Parce que, bien sûr, il y a énormément de questions à aborder avec la Russie. La maîtrise des armements, comment avoir un minimum de confiance, les mesures de confiance, des informations sur les activités militaires, sur les exercices. Le dialogue sur toutes ces questions va permettre de renforcer notre propre sécurité et sera aussi positif pour la stabilité et la paix en Europe. Et donc, depuis plusieurs années, nous poursuivons cette approche double, la dissuasion, la défense d'une part et le dialogue de l'autre. Et quand la Russie se dit prête à participer au dialogue, eh bien c'est quelque chose que nous devrions saluer. C'est ce que nous allons avoir la semaine prochaine. Et nous espérons que ce sera le début d'un nouveau processus où nous pouvons avoir un engagement avec la Russie sur différentes questions avec une série de réunions au sein du Conseil OTAN-Russie. Il est important aussi de se souvenir que l'Ukraine est un partenaire très proche. Nous apportons un soutien à l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas couverte par la clause de défense collective de l'OTAN parce que l'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN. L'Ukraine est un pays partenaire. Et ensuite, nous avons 30 alliés, dont 28 se trouvent en Europe. Eux sont tous couverts par notre clause de défense collective, ce qui veut dire qu'une attaque contre un pays membre de l'OTAN va déclencher une réaction de la part de toute l'Alliance parce qu'on va considérer que c'est une attaque qui vise toute l'Alliance. Ce principe clé de l'OTAN, que nous sommes tous unis ensemble, qu'une attaque visant un pays est une attaque contre tous, l'objectif n'est pas de déclencher un conflit, mais plutôt d'empêcher qu'il n'y ait de conflit. Et nous avons cette défense collective, cet article 5, cet engagement de défendre tous les alliés. Et c'est quelque chose qui a fonctionné depuis plus de 70 ans et c'est aussi l'objectif aujourd'hui. Et pour éviter qu'il n'y ait de possibilité d'erreur de calcul de la part de Moscou, nous sommes en train d'ajuster, d'adapter notre force militaire, notre posture, pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Et l'objectif n'est pas de déclencher une guerre, mais plutôt de prévenir un conflit.
Pour la question suivante, nous donnons la parole à Alan Parsons pour Sky News. Monsieur Stoltenberg, merci beaucoup. Deux questions, si vous le permettez. Vous parlez de conséquences sous la forme de sanctions qui ont l'efficacité de sanctions économiques contre Moscou ne paraît pas démontrée. Est-ce que vous pensez qu'elles vont fonctionner? Et sur les troupes que la Russie masse à la frontière de l'Ukraine, alors l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais en cas d'invasion de l'Ukraine, quel est le volume de troupes que vous prévoyez de déployer vers l'Est pour renforcer les groupements tactiques et à quel horizon?
Nous allons faire ce qu'il faut pour protéger et défendre tous les alliés et nous allons faire ce qui est nécessaire pour éviter qu'il n'y ait de possibilité d'erreur de calcul, de malentendu sur notre engagement s'agissant de défendre tous les alliés. Parce que l'objectif, à nouveau, est d'empêcher qu'il n'y ait de conflit, que nous nous retrouvions dans une situation dans laquelle un adversaire pourrait envisager d'attaquer un allié de l'OTAN sans déclencher une réaction de la part de toute l'Alliance. Donc, par exemple, lorsque nous avons triplé la taille de la force de réaction de l'OTAN à 40 000, et nous avons aussi les groupements tactiques multinationaux qui se trouvent sur le flanc est de l'Alliance, ce sont des éléments importants pas seulement parce qu'un bataillon est une unité capable de combat avec les forces de défense du territoire national, mais ce qui est important, c'est aussi que ces unités envoient un message clair que nous sommes présents, que les alliés de l'OTAN seront impliqués dès le premier jour et donc que toute l'alliance sera impliquée dès le premier jour. Et cela envoie un message de dissuasion. Je ne vais pas vous donner les chiffres précis du nombre de troupes que nous pouvons déplacer où et quand, mais je peux vous dire que nous avons des capacités significatives, nous avons des troupes, des forces, nous avons la disponibilité opérationnelle, nous avons aussi les plans nécessaires pour défendre et protéger tous les alliés. Nous sommes constamment en train d'adapter et nous sommes en train d'investir beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant pour moderniser nos capacités militaires, pour veiller à ce que nous préservions la paix en Europe.
Une dernière question, Terry Schultz, également en ligne, NPR CBS News. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Je voudrais revenir sur l'une ou autre question auxquelles vous avez déjà répondu. Sur le Kazakhstan, vous avez dit que tous les alliés étaient très préoccupés, mais est-ce que vous craignez qu'un regain d'instabilité dans la région, au voisinage du Kazakhstan, pourrait avoir un impact sur la sécurité de l'OTAN? Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur les calculs de la Russie quant à sa capacité à continuer de concentrer ses troupes à la frontière de l'Ukraine et quant à son potentiel d'agression renouvelé? Et sur la politique de la porte ouverte, nous avons entendu de la part de la Suède et de la Finlande un certain nombre de messages très intéressants récemment. Ce sont des propos qu'on entend généralement de la part de pays tels que la Géorgie et l'Ukraine.
Tout d'abord, pour la Finlande et la Suède, ce sont des partenaires très proches avec le Conseil de l'Atlantique Nord. Je me suis rendue en Finlande et en Suède l'année dernière. Nous travaillons de plus en plus ensemble. Nous avons des exercices ensemble. Nous avons des consultations aussi étroites avec la Finlande et la Suède. Ils participent souvent à nos réunions ministérielles. Et ce matin même, j'ai eu des échanges avec le président finlandais et le premier ministre suédois. Et bien sûr, eux apprécient aussi les consultations étroites entre l'OTAN et la Finlande et la Suède. Cette coopération étroite est positive non seulement pour la Finlande et la Suède, mais aussi pour l'OTAN. Et ce sont des pays qui sont très proches de l'OTAN. Ils partagent des frontières avec la Norvège, le Danemark, et ils sont proches aussi des États baltes. Mon message, c'est que la porte de l'OTAN reste ouverte. Et l'article 10 qui dit que les pays en Europe qui répondent aux normes de l'OTAN peuvent devenir membres de l'OTAN sont applicables aussi pour la Finlande et la Suède, mais nous respectons et nous soulignons aussi qu'il s'agit d'une décision finlandaise et suédoise. Et nous respectons les pays qui demandent de devenir membres de l'OTAN et donc nous signons un traité d'adhésion, mais nous respectons aussi lorsque le pays décide de ne pas devenir membre. Chaque pays individuel a le droit de décider sa propre destinée et cela veut dire que les pays ont le droit de décider de ne pas devenir membre de l'OTAN aussi. Et donc c'est à la Finlande et à la Suède de décider si et quand ils souhaiteraient demander une adhésion au sein de l'OTAN. Et entre-temps, nous saluons la coopération très forte et étroite que nous avons avec la Finlande et la Suède, qui sont des partenaires très proches et des partenaires importants pour l'OTAN. Et je ne vais pas spéculer s'agissant des développements au Kazakhstan et comment cela pourrait affecter la réaction de Moscou, mais le message principal pour le Kazakhstan, c'est que les violences doivent s'arrêter. Il y a eu plusieurs victimes. Il est important de respecter les droits humains, y compris la liberté d'expression et les manifestations pacifiques. Merci.
Merci beaucoup. Ceci conclut cette conférence de presse.